Archéo, le cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité, au Musée Fabre, le jeudi à 20h30 sur Divergence FM.
Les archéologues, eh bien les archéologues, ils sont un petit peu laboureurs, un petit peu chineurs, un petit peu collectionneurs, un petit peu historiens, un petit peu sociologues, un petit peu poètes. Et avec toutes ces activités, ils ont fait une discipline scientifique, l'archéologie. L'archéologie grâce à laquelle nous pouvons partir à la recherche des civilisations enfuies et enfouies.
De la tête aux pieds, la parure dans l'Antiquité sera le thème de cette nouvelle saison. Jeudi 16 avril 2026, l'artisanat du cuir dans l'Antiquité gréco-romaine. Des objets du quotidien aux pièces d'exception. Une conférence proposée par Martine Leguillou.
Alors, donc là, on m'avait demandé de faire effectivement une conférence sur les objets en cuir. Alors, c'est un très vaste sujet et j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner parce que je n'ai que 50 minutes. Et résumer donc, le monde de l'artisanat du cuir et des peaux et de tous les objets qui sont conçus et donc confectionnés avec le cuir, c'est un exercice très difficile parce que, en fait, le cuir était un matériau qui était très largement utilisé dans l'Antiquité. Alors, on a rarement conscience, en fait, parce que c'est aussi un matériau qui se dégrade très rapidement. Il faut vraiment des conditions très particulières hein, pour pouvoir trouver du cuir. Donc, bien sûr, il faut des milieux très secs. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais donc en Égypte, je travaillais aussi en Arabie Saoudite, ou alors des milieux très humides. Voilà. Donc, tous les objets qui sont retrouvés dans des niveaux qui sont sous une nappe phréatique, par exemple, dans ces genres de mobilier archéologique, il peut y avoir des fragments de cuir. Ce sont aussi c'est aussi du mobilier qui est relativement fragile, qui se fractionne, qui se morcelle très facilement. Et d'ailleurs, quand on retrouve des objets en cuir, c'est presque pratiquement toujours des objets qui sont usagés et qui sont jetés. Alors là, je vous ai affiché une figure qui vous montre un petit peu rapidement un petit panel de tous les objets qui peuvent être fabriqués en cuir. Alors vous voyez, c'est très très vaste. Hein. Il y a bien sûr les chaussures. Il y a dans le domaine de l'armurerie et des armes défensives, on oublie souvent aussi qu'il y avait du cuir. Les boucliers, par exemple, hein, ils étaient en bois et recouverts de cuir. Donc il y avait également des armures en cuir. Bien sûr, il y avait des tentes, il y avait l'équipement du cheval, le harnachement du cheval, mais aussi tout ce qui était utilisé pour le commerce. Il y avait également les conteneurs. Le conteneur liquide, donc essentiellement pour l'eau, les outres, avec différentes formes d'outres. Hein. Là, je vous ai mis une outre en peau de bœuf hein, qui est transportée sur des chariots. Il y avait bien sûr aussi tous les petits objets du quotidien. Où je vous ai mis une petite bourse voilà, en cuir. Voilà, qui était, alors les petites bourses en cuir, il y en a effectivement, on en retrouve de temps en temps. Il y avait également, je vous ai mis donc, une attache d'outre. Très très bien élaboré, vous voyez, en fait, ce sont pas des outres dans l'Antiquité romaine. On n'utilisait pas les outres en peau qui n'étaient pas tannées. On utilisait des outres façonnées qui étaient cousues et c'était cousu à partir de peaux qui étaient tannées. Voilà. Tout à l'heure, je vous préciserai ce que c'est vraiment la différence entre les peaux tannées et les peaux brutes. Et puis, bien sûr, vous avez les sous-vêtements. Alors, le cuir pour les vêtements. Était essentiellement utilisé pour tout ce qui était pagne. Alors, on le sait parce qu'on a des textes qui nous le disent, hein, les pagnes destinées aux sportifs, les sous-vêtements également qui étaient portés par les femmes au bain, au terme, étaient en cuir. Là, je vous ai mis effectivement un petit sorte de bikini hein, qui date du second siècle de notre ère. Hein. Il est vraiment antique, il est romain. Il est en velin, donc en peau de veau. Il était très souple, il a été restauré, très bien restauré. Il a retrouvé sa souplesse. Il a été retrouvé à Bordeaux, dans une fouille de la rue Sainte-Christine à Bordeaux. Et là, on peut voir que il était ouvragé. Voilà, il y avait, vous voyez, il était très ajouré. C'est une très belle pièce. C'est une pièce unique. Hein. C'était probablement une pièce qui était portée par une dame de la haute société, de l'aristocratie locale. Voilà pour ce petit tour rapide de tous les objets. Alors, bien sûr, le cuir était principalement aussi utilisé pour la fabrication des chaussures. Alors j'ai choisi de centrer mon propos vraiment sur les chaussures parce que ce sont des pièces qui sont très importantes parce qu'elles nous permettent vraiment d'appréhender tout le concept de différence culturelle et surtout toutes les variations socio-économiques qu'il peut y avoir dans une société, hein, que ce soit la société grecque, la société romaine. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Vous allez voir que dans le cours de mon propos, que c'est vraiment quelque chose qui ressort et qui, avec une très grande évidence. Alors, pour les chaussures en cuir, hein, parce qu'il y a également des chaussures, vous savez, qui sont fabriquées à semelles de bois, ça je ne vais pas en parler. Il y a également des chaussures à semelles de liège encore, mais là c'est vraiment les chaussures qui sont fabriquées en cuir. On a réussi à catégoriser, grâce aux découvertes archéologiques, hein, trois grandes catégories de chaussures. Voilà. Alors pour faire vite, rapidement, donc il y a les chaussures, ce qu'on appelle les chaussures à quartier. Ce sont les chaussures qui sont cousues à partir de plusieurs morceaux de cuir. Donc ce sont les quartiers, hein, qui sont assemblés et qui sont montés sur une semelle. Alors ces chaussures à quartier, en fait, on a quelques textes, hein, malgré tout, qui nous disent que essentiellement c'est le calceus campagus et le socus. Le calceus en particulier et le campagus, c'était des chaussures qui étaient portées par les hommes de qualité, comporté avec la toge. Le socus, c'était une chaussure de qualité un peu plus médiocre et comportait que, en fait, les gens qui ne portaient pas la toge donc, pouvaient porter. La deuxième catégorie de chaussures, ce sont ce qu'on appelle les chaussures à réseau de lanières. Alors, je vais vous expliquer plus en détail tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, c'est la carbatina et la caliga. En fait, ça s'appelle la réseau de lanières parce que ce sont des chaussures qui sont fabriquées dans une seule pièce de cuir. Hein. Vous aurez la semelle et les montants sur les côtés des chaussures. Donc, ce ne sont pas des chaussures qui sont cousues, hein, avec plusieurs morceaux, à partir de plusieurs morceaux. Et bien sûr, la dernière catégorie, c'est la plus ancienne, hein, c'est le plus ancien modèle de chaussures qui existe, c'est la sandale, hein, qu'on appelait solea d'Antiquité ou sodalium. Alors, pour la première catégorie de chaussures... Ah oui, alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du cuir. Hein. Alors, quand je parle de cuir, je parle vraiment de la peau tannée. Hein, c'est-à-dire, donc, c'est de la peau d'un animal. Donc, ça peut, donc essentiellement, le mouton, chèvre ou le bovin, qui ont subi une transformation qui va durer des mois. Hein, donc, en fait, ça peut durer de 2 à 3 mois. Et c'est un matériau, la peau fraîche, qui se détériore très vite. Donc, on va tanner ces peaux en les faisant tremper, pendant plusieurs mois, dans des bains de tanin. Alors, le tanin, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de l'écorce de chêne écrasée. Alors, on extrayait le tanin également à partir de la noix de gale. Hein, mais le matériau qui était le plus couramment utilisé à l'époque romaine, c'était vraiment l'écorce de chêne qui était réduite en poudre. Donc c'est un matériau très élaboré, le cuir. Et les Romains étaient entrés maîtres dans la conception des cuirs très, très tôt. Hein, et ils avaient même une technicité tellement élaborée que le principe même du tannage n'a pas évolué entre l'époque romaine et le XVIIIe siècle. Voilà. Donc jusqu'à la période à peu près pré-industrielle, on a commencé à utiliser des matériaux et des produits chimiques. Mais vous aviez aussi également des chaussures qui pouvaient être fabriquées à partir de peau fraîche. Alors, c'est un matériau qui est encore plus fragile que le cuir, qui se détériore très rapidement. Et c'est surtout un matériau qu'on ne peut pas utiliser sous nos latitudes. Parce que vous comprenez bien qu'une peau fraîche qui est juste séchée, elle ne va pas résister très longtemps aux intempéries. Donc, c'est le genre de chaussures qu'on pourrait retrouver en fait en Égypte ou en Arabie Saoudite. Hein. Donc, j'ai travaillé dans ces deux régions et j'en ai retrouvé. Donc là, je vous ai mis sur la gauche, vous voyez en fait la semelle d'une sandale. Alors, on distingue la forme. Hein. Ici, on voit bien les petites oreilles avec deux œillets qui servaient en fait à attacher. Ici, un œillet pour attacher la lanière centrale qui passait entre les orteils et ici pour le talon. Et on voit que c'est une chaussure, une semelle qui a bien servi, qui a même été usée parce qu'elle est usée au niveau du talon. C'est vraiment une usure caractéristique. Donc, c'est une semelle en peau fraîche, hein, qui a probablement été fabriquée par le propriétaire lui-même. Hein. C'est très simple à fabriquer. Mais qui est vraiment qui est très très rustique. Alors, un autre exemple qui a été également retrouvé en Égypte. Alors, vous voyez là, ils n'ont même pas pris la peine d'enlever les poils. Hein. Voilà, c'est un petit œillet de talon, une attache de talon, hein, ce qui se trouvait à ce niveau-là, d'une sandale toujours, et on voit les traces de pelage de la chèvre qui a été conservée. Je vais avancer. Hop. Donc les semelles, donc les chaussures conçues à partir de cuir, que ce soit donc l'empeigne. L'empeigne, c'est un terme que je vais reprendre, que je vais réutiliser très souvent, vous allez voir. Donc, c'est le dessus, en fait, hein, de la chaussure, c'est la partie qui va recouvrir le pied. Donc, vous aviez une empeigne qui était montée sur une semelle. Dans la première catégorie, donc les chaussures à quartier dont je vous ai parlé, il y a une sous-catégorie qui sont les chaussures à quartier avec des empeignes fermées, c'est-à-dire totalement fermées, qui va envelopper totalement le pied. Donc c'est le calcéus, hein. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a quelques textes, hein, qui nous disent qu'effectivement le calcéus est une chaussure de qualité qui est portée avec la toge. Voilà. Donc c'est vraiment, et c'est une chaussure qui pouvait être même parfois être teintée. Le cuir était parfois teinté avec des couleurs. C'est les mêmes pigments qui étaient utilisés pour teindre le textile étaient aussi utilisés pour teindre le cuir. Alors c'était des chaussures de qualité, juste pour vous donner un indice de comparaison. Le prix d'un calcéus, hein, dans l'édit de Dioclétien, donc au début du IVe siècle, le prix d'un calcéus classique était de 250 deniers. Dans ce prix-là, on incluait la matière première et le travail du cordonnier. Et à titre de comparaison, je vous ai mis le salaire d'un ouvrier agricole journalier, hein, qui était de 20 deniers. Voilà, donc c'était pour simplement vous donner une idée de ce prix. Et là, je vous ai mis également, pour illustrer ce calcéus, hein, un relief d'un marchand de Sens, un relief daté du 2e et du 3e siècle, où on voit bien, là, un calcéus, hop, qui est porté... avec un manteau et une tunique. Et là, vous voyez bien, il est remontant, le calcéus, il englobe bien le pied. Alors, ce sont des chaussures qu'on retrouve également dans les reliefs funéraires de Nobagen, hein, à Trèves. Ce sont des reliefs funéraires de riches marchands de Trèves. Et on en voit, voilà, vous avez ici un exemple de calcéus, hop, qui est remontant et bien enveloppant. Ça, c'est vraiment la catégorie. C'est une chaussure, dont je vous l'ai dit, de qualité. On en retrouve de temps en temps, malgré tout. Alors voilà, j'ai un exemple qui vient du fortin romain de Didymoï, qui se trouve en Égypte. Il n'est pas très remontant, mais on voit qu'il est bien enveloppant. Donc c'est une chaussure du second siècle de notre ère. Alors, ils ont des caractéristiques communes, malgré tout, c'est calcéus. Hein. Il faut savoir que les chaussures romaines ne sont pas systématiquement latéralisées. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément de différence entre la chaussure droite et la chaussure gauche. Ça, c'est quelque chose qui a été utilisé par les cordonniers très longtemps. Ça permettait, en fait, quand une chaussure... Vous savez qu'on use toujours un pied plus que l'autre. Donc, ça permettait, en fait, d'interchanger les chaussures. On passait du pied droit au pied gauche. C'est valable pour toutes les chaussures fermées. Ça ne va pas être valable pour les sandales. Et vous allez voir pourquoi. Donc, les caractéristiques communes, c'est donc la latéralisation qui n'est pas systématique, des modèles enveloppants, et bien sûr, l'empeigne, vous vous rappelez, c'est la partie supérieure, est toujours réalisée à partir d'un cuir fin, donc mouton ou caprin. Et les semelles sont toujours, bien sûr, en cuir de bovin. Donc, le cuir de bovin, vous savez, c'est des cuirs qui sont très épais, hein, qui peuvent faire 3 à 4 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, c'était vraiment ce genre de cuir qu'on utilisait. Et bien sûr, les semelles étaient cloutées. Voilà. Pratiquement toutes les chaussures romaines sont cloutées. Il y a des exceptions, c'est en fait les chaussures qui sont destinées aux enfants, et les chaussures d'intérieur également. Tout ça pour limiter l'usure de la semelle, hein, la semelle en cuir. D'autres exemples, donc vous voyez qu'il y a plusieurs modèles. Alors les caractéristiques communes sont, je vous les ai citées, hein, c'est toujours enveloppant, c'est remontant, mais les modèles sont très très variés. En fait, il n'y a pas une chaussure qui se ressemble. Hein. Je vais faire défiler une quarantaine de diapos, vous allez voir, avec des modèles très différents de chaussures, il n'y en a pas une qui se ressemble. Donc d'autres exemples, avec là une chaussure, un modèle qui se lasse, hop, on continue sur le coup de pied. Voilà, un autre exemple. Donc ces exemples-là ont été retrouvés en Égypte. Bien sûr, l'Égypte, parce que c'est un milieu très sec, donc qui permet de bien conserver le cuir. Ça reste malgré tout, comme je vous l'ai dit, des objets qui sont très usés, hein, qu'on jetait vraiment quand on ne pouvait plus faire autrement. Hein. C'est une paire de chaussures, quand même, ça ne s'était pas donné, ça se payait, ça devait se payer. Ça prenait du temps à être conçu, à être élaboré, donc on en prenait soin. On les usait vraiment, vraiment jusqu'à la corde, jusqu'à qu'on ne puisse plus les porter. Donc voilà d'autres exemples. Alors ça ce sont des modèles qui ont été retrouvés en Angleterre. D'autres modèles encore qui sont très enveloppants, très remontants, mais vous voyez avec un lassage sur le cou de pied et qui sont très ouvragés. Voilà. Mais les caractéristiques sont les mêmes. Voilà. Donc encore d'autres modèles. Vous avez vu, c'est très très différent. Avec également, alors tout ça en fait. Le décor en fait a été appliqué avec des petits poinçons et qui ont été martelés. Vous savez que le cuir en fait se marque très facilement. Donc si vous appliquez un petit poinçon, parfois qui est chauffé, le cuir va être très très vite marqué. Donc là vous en avez, hop, ici et ici. Tout ça c'est des petits décors. Et vous voyez systématiquement les chaussures vont être cloutées. D'autres modèles également de chaussures fermées, mais qui sont de qualité plus médiocre, parce qu'il y en avait également. Ce n'est pas le Casseus, c'est le Socus. Alors là, concernant le Socus, comme c'est une chaussure de qualité, on n'en parle pas dans les textes, hein, vous savez, les textes, pour bien des textes, les textes anciens, c'est que les informations qu'on peut en tirer ne recouvrent pas bien sûr tous les aspects de la vie quotidienne, et tous les aspects de la vie quotidienne du petit peuple étaient rarement documentés. Et le Socus, c'est vraiment une chaussure que portait le petit peuple, vraiment les plus basses classes. Et par contre, ce que l'on sait, ce que nous disent quelques textes et ce que nous confirment également les découvertes archéologiques, c'est que c'est une chaussure quand même qui est de qualité un peu plus médiocre. Voilà. Donc il n'y a pas de décoration, les finitions ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc quelques exemples de découvertes qui pourraient correspondre à des Socus. Alors c'est toujours la même chose quand on fait des découvertes d'objets archéologiques comme ça, on essaie de faire correspondre une identification, hein, par les textes, donc un nom avec un objet. Mais ce n'est pas toujours facile. Tout à l'heure, je vous en reparlerai concernant la carbatina. Et là, bon, on suppose que ce sont des Socus. Donc vous voyez, le cuir est vraiment de très médiocre qualité. Il s'est très abîmé. Les coutures sont très grossières. Malgré tout, la chaussure, on voit, a été réparée plusieurs fois. Là, vous voyez, il y a une pièce qui a été rajoutée. Et bien sûr, c'est des modèles qu'on retrouve, le Socus. Hein, bien là, j'ai mis un exemple qui vient d'Angleterre, un autre qui vient d'Égypte. Et en haut, vous avez un exemple donc, du premier avant qui a été retrouvé à Valle Ponti, en Italie. Parmi les chaussures à quartier, vous vous rappelez, chaussures à quartier, c'est les chaussures qui sont cousues, qui sont conçues à partir de plusieurs pièces de cuir qui sont assemblées, cousues sur une semelle. Vous avez également le Campagus. Alors le Campagus, lui, c'est un modèle de chaussure qui va apparaître un peu plus tard. C'est également un terme, le Campagus, un terme qui désigne une chaussure qui va apparaître dans des textes qui sont un peu plus tardifs. Quand je dis tardif, en fait, c'est le 3e siècle donc, de notre ère. La caractéristique de ce Campagus, c'est que, donc il est toujours à quartier, hein, c'est toujours des chaussures qui sont cousues, mais c'est un modèle qui va laisser le dessus du pied visible. Voilà. Donc là, je vous ai mis un exemple. L'exemple qui a été retrouvé donc, donc à Venise, sur la statue donc des tétrarques, qui est datée du 4e siècle de notre ère. On voit bien, effectivement, le cou de pied est visible, hein, le dessus du pied avec des lanières qui passent par-dessus. Et dans les reliefs funéraires de Neumagen à Trèves, hein, qui datent du 3e siècle de notre ère, on commence à voir apparaître ce type, ce modèle de chaussure. Un modèle de chaussure, petit à petit, le modèle qui est complètement enveloppant, fermé, va disparaître, et on va voir apparaître ce modèle-ci, voilà, qui est typique et caractéristique vraiment du Campagus. C'est une chaussure qui est également portée par, par les classes sociales les plus favorisées. C'est vraiment réservé à l'élite. Alors, les découvertes archéologiques, alors, toujours dans le domaine de l'iconographie, là je vous ai mis quelques représentations sur des sarcophages d'Arles, datés du 4e siècle. On voit, hein, c'est toujours le même modèle de chaussure. Voilà. Là, on est vraiment on voit vraiment apparaître en fait une évolution liée en fait à des modes, hein, c'est simplement. Alors, les découvertes archéologiques, voilà quelques exemplaires de Campagus qui ont été retrouvés, à Londres et en Belgique. Alors, c'est un modèle qui s'identifie très facilement. Donc, vous pouvez le voir, hein. Voilà, c'est ce genre de modèle qu'on voit exactement sur les reliefs. Hop, hop, et ensuite, je crois qu'il y a d'autres exemples, voilà. D'autres exemples de Campagus qui ont été retrouvés donc en Grande-Bretagne. Voilà. Et vous voyez, chaque modèle, chaque chaussure est vraiment unique. Que ce soit dans la forme, dans la découpe, hein, du cuir, ou dans les décorations. On vous reviendra dessus tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Encore d'autres exemples. Alors, malheureusement, le travail du coriologue, j'ai oublié de vous dire que l'étude des cuirs, en fait, ça s'appelle la coriologie, et donc des objets en cuir également. Corio, simplement, ça vient de corium, qui veut dire le cuir en latin, simplement. Alors, certaines personnes qui travaillent que sur les chaussures parlent aussi de calcéologie. Hein. C'est un mot formé à partir du mot calceus. Mais moi, je préfère parler de coriologie, parce que ça va englober vraiment tout le travail, tous les objets, tous les artefacts qui sont fabriqués en cuir. Donc malheureusement, quand on travaille dans le domaine de la coriologie, je vous l'ai dit, on retrouve souvent ce genre de choses, hein, des tout petits fragments. Donc là, en fait, ce sont des attaches, hein, d'un Campagus qui était très ouvragé, là, on peut le voir. Alors on cède des illustrations, des représentations dans l'iconographie, les mosaïques, les sarcophages, pour essayer d'identifier, ou dans d'autres découvertes archéologiques, pour essayer d'identifier le modèle. Donc à partir de ces petits éléments, voilà, on a proposé ce genre de modèle. Voilà. Et en face, ici, là, vous avez un Campagus qui a été retrouvé donc au Martre de Vers. Vous savez que Martre de Vers, donc ça, à côté de Clermont-Ferrand, il y a plusieurs tombes ont été découvertes grâce à des remontées de soufre. Hein. Toutes les matières organiques étaient conservées, les cheveux même des défunts, les robes, les tuniques, et les chaussures étaient conservées. Et dans une tombe de femme, on a retrouvé ce modèle de chaussures, qui est vraiment donc un Campagus. Donc les sépultures sont datées du 3e siècle. Ça, c'est vraiment des découvertes uniques. Et vous voyez donc toujours clouté. Hein, ce genre de chaussures était toujours clouté. Voilà, c'est un très bel exemple. D'autres exemples de Campagus, là, je vais peut-être passer rapidement. Voilà, hop, qui se lassait toujours sur le coup du pied. Le coup de pied. Ça, ce sont des modèles qui ont été retrouvés en Égypte, dans des fortins militaires, mais vous savez que les fortins militaires en Égypte accueillaient en fait des soldats, des militaires qui venaient d'Occident. Hein. Donc ils venaient avec leurs chaussures et leurs vêtements, et leurs chaussures qui étaient romaines et gallo-romaines. Voilà, alors j'en ai fini avec la présentation de la première catégorie de chaussures, qui est celle donc des chaussures à quartier, qui sont donc des chaussures qui sont fabriquées, c'est en fait les chaussures qui sont de meilleure qualité, qui sont fabriquées à partir de plusieurs pièces de cuir cousues ensemble. Et vous avez maintenant, je vais maintenant aborder la deuxième catégorie de chaussures, qui est également, à mon sens aussi, la plus intéressante. C'est la carabatina. Alors la carabatina, qu'est-ce que c'est ? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était très compliqué de rattacher un nom de chaussure à un modèle qu'on pourrait trouver, un objet qu'on pourrait retrouver en fouille, parce que les descriptions, en fait, sont très évasives. Alors, plusieurs chercheurs ont décidé d'appeler carbatina ce type de modèle. Alors, la carbatina, telle que les calcéologues ou choriologues l'imaginent, en fait, c'est une chaussure qui est fabriquée à partir d'une seule pièce de cuir. Seule pièce de cuir dans laquelle on va découper à la fois la semelle et les côtés de la chaussure qu'on va ensuite, là vous voyez c'est le développé, qu'on va ensuite remonter sur les côtés et qu'on va ligaturer sur le dessus du pied. Voilà. Alors pourquoi certains ont décidé d'appeler ça une carbatina? Simplement parce que, à cause ou grâce, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'un texte d'Aristote qui parle en fait de carbatiner. Donc c'est un mot grec à l'origine, et qui désigne une pièce de cuir enveloppante qui servait à protéger les pieds des dromadaires. Voilà. Et à partir de là, on s'est dit, de toute façon, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on mettait donc le sabot, le pied du dromadaire dans une enveloppe de cuir qui était ajourée sur les côtés. On rabattait donc les côtés sur le sabot du dromadaire et on ligaturait. C'est le même principe. C'est un peu plus évolué quand même et perfectionné pour les humains, mais c'est le même principe. Alors, je ne sais pas si on doit conserver le terme de carbatina. On est en train de réfléchir avec un collègue qui travaille sur les textes pour voir s'il n'y a pas d'autres appellations qui pourraient être un peu mieux adaptées. Enfin, pour l'instant, on garde le terme de carbatina. Donc là, je vous ai mis le carbatina qui a été retrouvé à Pomerol en Belgique. C'est une chaussure d'enfant, en fait. Elle n'est pas cloutée. Donc c'est une petite chaussure d'enfant qui n'est pas très grande, là, vous voyez à l'échelle, 5 cm, qui fait une dizaine de centimètres maximum donc de long. Alors la carbatina, en fait, c'est une chaussure intéressante parce que ce soit l'iconographie, surtout l'iconographie, en fait, nous montre clairement que c'est une chaussure qui était portée pour les activités extérieures. Les activités extérieures, mais quelle que soit la catégorie sociale du propriétaire. Quand je dis activité extérieure, en fait, ça va être les activités agricoles. Ah voilà, je voulais vous montrer, je vais revenir en arrière. Donc ça va être les activités agricoles, mais ça va être aussi la chasse. Donc ça va être tout ce qui va demander vraiment des travaux, ça va être des travaux en extérieur. Alors, c'est un terme, tout à l'heure je vous ai dit, c'est Aristote qui a commencé à parler des carbatina, et c'est un modèle de chaussure, en fait, qui a eu une chronologie très très longue. Donc, la première attestation de carbatina va apparaître, on les voit apparaître dans la statuaire grecque du 4e siècle avant notre ère. Là, je vous ai mis donc une statue d'Asclépios, où on voit parfaitement la carbatina avec les bords qui vont remonter et qui sont ligatures donc sur le coup de pied. Mais c'est également c'est des chaussures qu'on va retrouver. Voilà, un autre exemple. Ça, c'est une statue donc en bronze. Il reste plus que le pied, donc qui se trouve au Museo Civico de Bologne. Là, pareil, on voit bien que c'est une carbatina qui remonte très bien ligaturée sur le coup de pied. Donc c'est une chaussure, je vous l'ai dit, pour les travaux agricoles et pour tous les travaux extérieurs. Et pourquoi est-ce qu'elle était utilisée pour les travaux agricoles, tous les travaux extérieurs, les travaux, c'est-à-dire la chasse, les travaux agricoles? C'était une chaussure qui était très pratique dans la mesure où les côtés n'étaient pas assemblés, n'étaient pas cousus, elle était très souple. Donc on pouvait, en fonction du serrage des lanières, on pouvait soit adopter un serrage lâche, soit plus resserré. Et surtout, on pouvait insérer à l'intérieur de ces chaussures des bandes molletières. Voilà. Dans l'Antiquité, ils n'avaient pas de chaussettes. Ce qu'ils utilisaient, c'était des bandes molletières. Et là, on voit bien sur ce pied de statue, on voit bien la bande molletière qui est bien représentée. Là, on voit une limite, on voit bien l'orteil ici. Hop, voilà. Et ici, on voit la limite de la bande molletière. Alors, la thébositie n'est pas très nette, mais on voit aussi, là, sur le dessus du pied, on voit aussi la différence de le marquage des bords des bandes molletières qui apparaît très bien. C'est aussi très bien représenté donc, dans la mosaïque de Cherchel, hein, dans une mosaïque de Cherchel trouvée donc, en Algérie, où on montre, où on voit un paysan qui travaille au champ, donc il travaille dans un champ, dans une oliveraie, et on le voit est en train de biner le pied d'un olivier, et on voit très nettement donc, la carabatina qui est ligaturée. La carabatina était souvent, les lanières étaient souvent, remontaient souvent jusqu'au genou. Et on voit très bien la différence de couleur hein, dans les tesselles entre le genou et le mollet, simplement parce que l'ouvrier, ce paysan, portait des bandes moltières. Voilà. Là, c'est très, très net. Je vous ai mis alors, d'autres exemples. C'est un exemple très intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des carabatinas étaient portées, quelle que soit la catégorie sociale, mais c'était toujours pour les activités extérieures. Là, c'est une mosaïque qui a été retrouvée à Vinon-sur-Verdon. Elle est très intéressante. Elle date donc du 4e siècle de notre ère. Très intéressante parce que c'est une mosaïque qui a été installée dans une villa, donc par un propriétaire qui s'est fait représenter sur la mosaïque. Ici, il est ici, on le voit bien. Et il s'est fait représenter sous les traits d'Icarios. Donc dans la légende d'Icarios et des Dionysos, donc Dionysos fait don à Icarios de la vigne et lui explique comment vinifier. Voilà, donc là on voit Dionysos hein, qui est en train d'offrir à Icarios, qui est en fait le propriétaire de la villa, des ceps de vigne. Et à côté, juste après, vous avez donc le propriétaire de la villa qui montre à un de ses ouvriers agricoles un bouc qui est en train de manger un cep de vigne et qui désigne le bouc pour l'amener en fait à l'autel de le sacrifier. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ce soit le propriétaire du domaine ou l'ouvrier, vous voyez, là je vous ai mis des détails, hein, on voit bien, ils portent tous les deux la carabatina. Donc où on distingue bien ici dans les ligatures, hop, et là les bandes moltières en fait qui retombent, hop, par-dessus les lanières. Donc dans notre activité liée qui se pratique en extérieur, hein, c'est la chasse, pareil. Donc là je vous ai mis pour illustrer donc l'usage de la carabatina dans les activités de chasse. Une mosaïque qui a été retrouvée, qui est conservée au Louvre, qui montre donc un sacrifice à Diane au retour de chasse. Là, on voit les chasseurs hein, qui sont en train de faire un sacrifice à Diane. Et là, sur le côté, donc, ils portent la carabatina avec des bandes moltières. Là, sur le côté, on voit donc un chasseur qui est en train c'est plutôt un retour de chasse puisqu'il y a un sacrifice. Donc, on imagine qu'il est en train d'enlever ses carabatinas. Et on voit bien, donc, il y a toujours donc, cette différence de couleur hein, entre les tesselles pour bien marquer le fait qu'il y a des bandes moltières. Voilà un autre exemple. Vous voyez, donc, c'est beaucoup plus net aussi. Hop, on voit bien les lanières qui s'entrecroisent. Donc, c'est une mosaïque qui a été retrouvée donc, à Villa Casale en Sicile, hein, 4e siècle de notre ère. Donc, vous voyez, c'est un modèle qui a été un usage très, très longtemps, parce qu'il est simple à réaliser, simplement, et il est très pratique. Voilà. Alors, les découvertes archéologiques hein, de ce type de chaussures, on en trouve régulièrement. Je vous ai mis quelques exemples avec des carabatinas très simples, hein, qui n'ont pas de décor. Des carabatinas un peu plus sophistiquées, hein, qui sont très ouvragées. Voilà. Probablement très fragiles aussi. On voit la finesse là, des lanières. Donc, on imagine être portées quand même par une classe un peu plus privilégiée. Voilà, donc celles-ci ont été retrouvées donc, sur un site en Grande-Bretagne qui s'appelle Bar Hill et qui sont datées du second siècle de notre ère. D'autres exemples, un peu plus rustiques. Alors vous voyez, le principe reste le même, mais la façon dont on va découper la bande, enfin la pièce de cuir, va permettre de créer des décors. Avec ici, on voit qu'il y a une asymétrie volontaire. Hein, pour créer une forme de pour créer du volume et du décor. Mais ça reste quand même des chaussures qui sont très simples de conception. Avec toujours la semelle, hop, voilà, intégrée à l'intérieur de la chaussure. Un autre exemple, celui-ci a été retrouvé donc à Bordeaux, dans la rue Sainte-Christine, les fouilles de la rue Sainte-Christine, qui est datée du 1er siècle de notre ère. Alors voilà ce qu'on a retrouvé. Hop, voilà. Et à partir de ça, on imagine ça. Et à partir de ça, on imagine ça. Voilà, donc c'est une très belle pièce, hein. c'est un très beau cuir, hein. C'était très bien tanné. Mais bon, voilà, c'est malgré tout, ça n'a pas été retrouvé entier, malheureusement. Alors, il y a un autre modèle également de chaussures qu'on appelle donc à réseau de lanières. À réseau de lanières, simplement parce que, vous avez vu, donc les lanières sont vraiment découpées dans la pièce de cuir. Hein. C'est la caliga. La conception est tout à fait est identique, mais le principe de la caliga, c'est que les modèles sont vraiment récurrents. Vous avez vu que dans la cavatina, les modèles pouvaient être très variés. Donc il y a des décorations, il y a des découpes qui sont très différentes d'une chaussure à l'autre. Alors que la caliga, c'est une chaussure qui sera conçue toujours sur le même principe. Et en fait, la caliga, c'est une chaussure qu'on retrouve dans les contextes militaires, essentiellement. Dans les textes, on parle souvent de caligales militares. D'ailleurs, au sens figuré, le terme de caliga aurait désigné la profession de soldat. Voilà. Et le nom de Caligula, l'empereur, hein, son nom réel c'était Caius César, hein, mais son surnom c'était Caligula. Caligula qui veut simplement dire la petite Caliga. Petite Caliga parce que, nous dit-on, en fait, il passait beaucoup de temps avec les militaires au milieu des soldats. Voilà. Donc, on lui aurait donné ce surnom de Petite Caliga qui lui serait resté. Donc, c'est une chaussure qui est très caractéristique. Là, je vous ai mis donc, tout ce qui est représentation, on l'identifie très facilement. Là, donc, elle est bien représentée là, sur la colonne Trajane. Hein. Voilà, ça c'est vraiment la caliga caractéristique. Le seul modèle qui aurait donné, dit-on, le modèle de la tropézienne, pourquoi pas. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est le même principe que la cavatina. Donc c'est une seule pièce de cuir, qui va être très très ouvragée avec de nombreuses lanières, et donc la semelle et les bords qui sont constitués de nombreuses lanières, et surtout elle est très remontante. Elle doit vraiment bien tenir la cheville, parce que c'est avant tout une chaussure de marche. Hein. C'est vraiment la chaussure du légionnaire. Donc elle doit permettre à la fois au légionnaire de pouvoir marcher, donc une bonne tenue au pied. Elle doit être très aérée, c'est pour ça qu'il y a de nombreuses lanières. Elle doit aussi pouvoir recevoir des bandes molletières. Voilà un autre un bel exemple de Caliga qui est conservé à Saint-Germain-en-Laye, hein, au Musée d'Antiquités Nationales. Voilà, ça c'est vraiment la Caliga type. Donc là, je vous ai mis un détail où on voit bien que, hop, voilà, elle était bien sûr cloutée, hein, toujours. Vous savez que l'armée romaine, quand elle était en mouvement, elle voyageait toujours avec des cordonniers et des forgerons. Donc les cordonniers, les forgerons permettaient de réaffûter les armes et le cordonnier de réparer les chaussures, de remettre des clous sur les chaussures. On va passer à la troisième catégorie de chaussures qui est donc la sandale. Alors la sandale, c'est un modèle aussi qui est très intéressant, très révélateur, vous allez voir, des identités culturelles. C'est pour ça que c'est un modèle aussi que j'aime bien. C'est aussi le plus ancien modèle de chaussures. Le premier modèle de chaussures qui est connu, qui est référencé, qui est illustré, c'est la sandale. C'est une chaussure très simple, en fait. Hein, simplement une semelle avec quelques lanières. Voilà. Alors, on l'appelle solea. Parfois, dans les textes, on l'appelle sandalium ou crepida. Le terme de crepida est plutôt... C'est un terme grec, en fait, qui a été latinisé. Voilà. C'est un modèle qui est très largement répandu dans la statuaire et qui est aussi très largement diffusé, hein, que ce soit dans les régions du nord ou dans les régions du sud. C'était une chaussure qui était très largement portée, je vous l'ai dit, et qui était portée tout le temps, en extérieur, en intérieur, quel que soit le temps. Alors, les sandales sont très simples, sont des modèles très simples, mais il y a malgré tout des formes qui vont apparaître au fil du temps. Donc, on arrive à identifier quatre grands types de sandales qui sont catégorisées essentiellement grâce à la forme des semelles. Donc, vous avez la semelle toute simple, qui est la première, la semelle de base. Vous avez la semelle à découpe anatomique, qui est très rigolote, qui apparaît à l'époque hellénistique, en Grèce. Vous avez le modèle égyptien, on va revenir, et vous avez les semelles palmées. Voilà, les sandales à semelles palmées. Ces trois types de formes qui vont en fait correspondre plus ou moins à des différences chronologiques. Alors, la forme la plus simple, alors vous avez vu, on le voit très nettement là. Tout à l'heure, je vous ai dit que le calceus et le socus, c'était souvent des modèles qui n'étaient pas latéralisés. Pas de chaussure droite, pas de chaussure gauche. C'est différent pour la sandale. La sandale, elle va être latéralisée simplement parce que, c'est l'explication est toute simple, c'est simplement il faut des lanières à l'avant pour les orteils. Donc, il n'y a que le modèle égyptien qui échappe un peu à cette règle. Mais autrement, on aura toujours besoin de latéraliser les semelles pour pouvoir fixer les lanières d'attache au niveau des orteils. Alors le modèle le plus simple, c'est ce modèle-ci, avec un bout arrondi tout simplement. Donc des modèles qui ont été retrouvés en Égypte. Voilà. Vous avez vu, alors là on distingue bien les sandales, je disais tout à l'heure, les chaussures romaines sont toujours cloutées, les sandales y compris. Donc là, on distingue bien les traces de clous qui ont fini par percer. Alors souvent, elles étaient jetées, ces sandales, parce que les tiges des clous finissaient toujours par transpercer la semelle de la sandale. Voilà. Donc c'était un modèle qui n'était pas... C'était le modèle le moins onéreux, donc on le remplaçait facilement, donc on jetait une fois que la semelle était trop usagée. Donc là, on distingue bien les attaches. C'était toujours très, très simple. Des lanières au niveau du talon, des lanières au niveau des orteils. Voilà. Hop. Alors là, c'est la sandale à semelle anatomique qui va commencer à apparaître, donc je vous l'ai dit, à l'époque hellénistique. Alors là, je vous ai mis le pied d'Aphrodite. Ça, c'est Aphrodite et Pan. C'est des statues que j'aime beaucoup parce que vous êtes déjà allé au Musée national d'Athènes. En fait, on voit donc Aphrodite qui est chaussée. Là, vous avez le pied d'Aphrodite ici qui est chaussé. L'autre pied est déchaussé, simplement parce que en fait, Aphrodite a ôté sa sandale pour taper avec sa sandale Pan qui est en train de l'embêter. Voilà. Donc c'est très rigolo à voir. Le groupe est très 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 intéressant. Mais le pied d'Aphrodite également. Parce que vous voyez que le sculpteur a vraiment pris soin à sculpter tous les détails de la chaussure. Donc les lanières, les orteils, là on le distingue un petit peu, on voit que la semelle a une légère découpe anatomique. Et je vous ai mis le détail de la semelle, de la sandale, donc l'autre sandale qu'Aphrodite a ôté de son pied. Et vous voyez là, hop, il y a une découpe, en fait c'est la découpe du gros orteil. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que à l'origine, il devait y avoir probablement des... Je ne pense pas que c'était des liens en cuir, mais il devait y avoir peut-être des agrafes, du métal pour pouvoir... Ou peut-être du cuir, simplement. En tout cas, voilà, on imagine bien là qu'il devait y avoir ici, hop, peut-être des lanières en cuir, simplement. Parce qu'en tout cas, le sculpteur a pris soin de bien laisser les ouvertures pour qu'on puisse attacher les lanières. Alors, c'est un modèle, en fait, qui va commencer à apparaître, je vous l'ai dit, à l'époque hellénistique et qui va être utilisé jusqu'au début du 3e siècle de notre ère et qui va être très, très, très largement répandu dans l'ensemble de l'Empire. On a des modèles de ce type de chaussures donc en Angleterre, dans la province de Britannia, bien sûr en Gaule, en Italie, en Grèce et jusqu'en Égypte. Voilà, c'est un modèle qui est très très largement répandu. Il y a plusieurs variantes. Il va y avoir les variantes où il y aura juste la découpe du gros orteil, comme pour la sandale d'Aphrodite. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui ont été découverts en Égypte. Là, on voit bien, hein, hop, le gros orteil ici. Donc encore, alors ici, donc des fentes pour, il y avait les lanières simplement pour attacher au niveau du talon. Donc c'est des modèles très simples, hein, simplement une semelle et puis quelques lanières. Voilà. D'autres, un autre exemple, ça c'est la variante 1 où il y a simplement le gros orteil qui est découpé. Encore un autre exemple ici, hop, d'une petite sandale, toute petite, qui était probablement portée par un enfant. Et ici, je vous ai mis la variante 2, où on voit donc, une chaussure qui a été retrouvée donc, en Égypte également, sur le fort militaire de Xéron, hein, datée du second siècle, où on voit, au moins ça apparaît, le gros orteil, et là, une découpe des autres orteils qui commencent à apparaître. 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'écoute anatomique très marquée. Un autre exemple, voilà, c'est celle-ci d'une chaussure qui a été retrouvée à Naples, hop, avec une proposition d'attache, hein, pour les lanières sur le coup de pied. Un autre exemple encore, voilà. Donc c'était très largement répandu en Italie, en Gaule, à Arles, voilà, des découvertes qui ont été faites dans le Rhône. Hein. Et qui sont datées, elles sont datées du second siècle grâce au mobilier céramique qui était associé à ces chaussures. Elles ont été retrouvées dans un dépotoir. Là, pareil, on voit, hop. Donc là, vous avez, hop, 1, 2, 3, 4, 4 orteils qui sont découpés. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 orteils qui sont également découpés. Voilà. Et puis, le dernier modèle, non, l'avant-dernier modèle, c'est que dont je voulais vous parler, c'est le modèle égyptien. Alors ça, c'est un modèle très intéressant. Les deux derniers modèles dont je vais vous parler, en fait, ce sont des modèles qui sont très marqués culturellement parlant. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui ont été très peu diffusés, alors que le modèle donc, à découpe anatomique est très largement diffusé. Hein, donc c'est le modèle gréco-romain, on appelle ça le modèle gréco-romain. Le modèle égyptien a été uniquement retrouvé qu'en Égypte. Alors ce modèle, il y a deux variantes de ce type de modèle. Hein. Donc il y a la variante 1 qui est le type 1, qui est en fait le modèle archaïque et qui reprend exactement. Alors ça c'est une chaussure hein, qui a été retrouvée. C'est deux chaussures qui ont été retrouvées dans un fortin romain en Égypte, hein, qui sont datées du 1er et du 2 siècle de notre ère, mais qui reprennent exactement les formes des sandales d'époque pharaonique. Là, voilà. Donc, je vous ai mis une représentation, une peinture qui a été retrouvée dans la tombe de Rekhmiré, dans la vallée des Nobles. Donc, une tombe qui est datée vers 1450 avant notre ère, et on voit en fait un artisan qui est en train, des cordonniers qui sont en train, des tanneurs cordonniers en fait qui sont en train de préparer des pots, hop, et ensuite sont en train de les découper. Ils sont en train de faire des ouvertures, vous voyez, à l'avant et à l'arrière, pour attacher les lanières. Vous voyez, hop. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce type. Je vais revenir en arrière, on le voit plus nettement ici. C'est vraiment ce modèle-là qu'on retrouve, hein, avec des petites attaches en arrière qui sont toutes petites. Hein. Voilà. Qui sont un peu disproportionnées. La semelle est un peu disproportionnée par rapport aux attaches. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Exactement ça. Voilà. Donc c'est un modèle qui a connu vraiment une utilisation très très longue et qu'on retrouve, je vous l'ai dit, vraiment qu'en Égypte. Il faut savoir que sur ces fortins militaires égyptiens, il y avait bien sûr des Romains, des légionnaires romains, des auxiliaires romains, mais il y avait aussi des petites mains, on va dire, donc des cuisiniers qui étaient là aussi, des factotums qui étaient égyptiens. Et qui était là, en fait, pour aider au nettoyage et à l'entretien des fortins. À partir du premier siècle après notre ère, on verra quand même apparaître un nouveau modèle de ces chaussures égyptiennes, hein, parce que c'est une question de mode, en fait, avec des attaches à l'arrière qui vont devenir de plus en plus larges, hein, triangulaires, et l'avant du pied également qui va s'élargir, et vous aurez, au lieu d'avoir un seul trou, vous aurez deux trous qui vont apparaître pour attacher donc la sandale au pied. Voilà. Bon, je vais passer rapidement. Ensuite, un autre modèle aussi qui est intéressant et qui marque en fait une identité, qui correspond en fait à une identité culturelle, ce sont les sandales à semelles palmées. Alors, j'ai eu du mal à trouver un terme pour désigner ces sandales. Hein. En fait, ce sont ces sandales qui sont très évasées à l'avant, vous voyez, comme des palmes, hein. Très très larges. Alors, on se demande à quoi pouvaient ressembler leurs pieds. Je ne sais pas, très, très, en tout cas très larges à l'avant. Et c'est un modèle qu'on retrouve essentiellement vraiment dans le nord de la Gaule, en Grande-Bretagne et en Germanie. Alors, hop, là je vous ai mis un exemple. Ça, c'est un modèle qui a été retrouvé à Reims. Alors, c'est intéressant parce que je vous ai mis ici. Alors, à Reims, on a retrouvé sur le site du boulevard Henrot, on a retrouvé donc énormément de semelles de chaussures, de semelles de sandales notamment. Datées entre le 3e et le 4e siècle de notre ère. Et ce genre de semelles, on commence à les voir apparaître essentiellement donc au 4e siècle. En tout cas, dans ce mobilier-là, à une époque où la présence romaine, on a l'impression que la présence romaine commence à être peut-être moins marquée, où les identités culturelles commencent peut-être à s'affirmer un peu plus. Et alors, ce qui est intéressant aussi avec cette semelle, vous voyez ici, c'est que c'est une semelle donc à l'avant très évasée, mais on voit, moi j'appelle ça, enfin, je trouve que c'est, on pourrait appeler ça du syncrétisme. On voit que malgré tout, dans cette semelle qui est très évasée à l'avant, on voit une découpe du gros orteil, voilà, qui apparaît. Bon. Donc c'est un mix entre les semelles très évasées et les semelles anatomiques. D'autres exemples, je vais passer rapidement, voilà. Alors, celle-ci est intéressante, on voit qu'on va apparaître dans des décors. Hop, ici, des traits. Celle-ci a conservé une partie de la lanière à l'avant. Encore d'autres exemples, voilà. Celles-ci ont été retrouvées en Belgique, aux Pays-Bas, voilà, avec des décors également. Je reviendrai sur les décors. Voilà. Alors, au niveau des attaches, ah, une petite sauter. Alors, le modèle de sandales, hein, c'est un modèle voilà, qu'on pouvait laisser libre cours vraiment à son imagination. On pouvait imaginer, on pouvait demander à peu près ce qu'on voulait coordonner. Hein. À cette époque-là, les chaussures étaient conçues vraiment à la demande. Hein. Donc on choisissait vraiment ce qu'on voulait comme attache. Donc des exemples d'attaches donc au pied des sandales. Vous voyez, ça pouvait être très simple, ça pouvait être beaucoup plus élaboré. Hop. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, les chaussures dans l'Antiquité, leur caractéristique principale, c'est qu'il n'y aura jamais un modèle identique. Tous les modèles sont différents, seront différents. Ça tient simplement au fait qu'à cette époque-là, que ce soit à l'époque grecque ou à l'époque romaine, les chaussures étaient toujours conçues sur mesure, donc elles étaient personnalisables, voilà, systématiquement. Donc là, je vous ai mis deux représentations de deux vases à figure noire. On voit des détails où on voit bien là que le cordonnier est en train de là directement tailler la semelle de la chaussure autour du pied du client. Voilà. Là, vous avez une cliente qui arrive avec sa peau et le cordonnier qui lui demande de s'installer parce qu'il va lui faire une chaussure à son pied. Voilà un autre exemple donc sur une figure rouge du 4e siècle. Pareil. Et puis, surtout, c'est quelque chose qui va être pris également à l'époque romaine, avec une différence néanmoins, c'est qu'à l'époque romaine, on verra apparaître des formes. Hein. Là, vous avez donc l'intérieur d'un atelier de cordonnier. Donc, c'est deux petits amours cordonniers qui sont en train de fabriquer des chaussures. Et on voit à l'intérieur de l'armoire des formes, en fait. Hein. Les formes, en fait, elles étaient en bois. Et chaque client était supposé avoir une forme qui correspondait à la taille de son pied, à la forme de son pied. Donc à partir de là, on pouvait commander au cordonnier un modèle de chaussures et le cordonnier ensuite pouvait l'élaborer en fonction de la demande du client. Voilà. Donc ce qui fait que les chaussures à cette époque-là étaient toujours personnalisées. Tout ce qui nous conduit à parler donc des différents décors. Tout à l'heure, je vous ai dit que tout ce qui était attache au niveau du pied, ça pouvait être très varié. Mais une caractéristique également de la chaussure romaine, c'est qu'elle était, c'est qu'il y avait des décors. Les décors étaient situés soit au niveau des semelles, donc c'était des décors cloutés, soit c'était l'intérieur des semelles qui était décoré. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de décors cloutés. Alors, il pouvait y avoir des décors très simples, hein, hop, avec simplement des petits losanges ici. Donc là, ça, c'est ce modèle-ci. Voilà, ça, ce sont des chaussures qui ont été des semelles de chaussures de Celceus qui a été retrouvée à Reims dans la fouille du boulevard Henrot. D'autres exemples, voilà, là, ce sont des dessins où on voit donc les décors de cloutage les plus fréquents. Voilà. Donc, ce qui revient le plus fréquemment, c'est les losanges, c'est les... Parce qu'en fait, il y a très peu de formes hein, qui peuvent être prises, qui peuvent être réalisées avec des clous. Donc, il y a les losanges, il y a les ronds, il y a les cercles, il y a les carrés, il y a les S, voilà, les S inversés, les points d'interrogation hein, à l'envers, inversés, voilà. Des spirales, voilà. Donc, en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une chaussure qui se ressemblait. Voilà. Les décors peuvent être aussi à l'intérieur, je vous l'ai dit, des chaussures, sur les semelles intérieures, qu'on appelle la semelle de propreté. Ça, ce sont des sandales qui ont été retrouvées donc, en Égypte, où on voit bien un décor repoussé, là. Hop, je vous ai mis le dessin ici. Il y a des décors aussi qui étaient simplement réalisés à main levée. Là, c'était un décor très grossier, un quadrillage. C'est clairement... Alors, pour personnaliser la chaussure. C'est vraiment un acte volontaire hein, pour personnaliser la chaussure. Pour éviter, pas forcément, peut-être qu'elle soit perdue, peut-être qu'elle soit volée. Voilà. En tout cas, c'était quelque chose que... Voilà. Ici, un autre exemple. C'est quelque chose de vraiment très systématique. Alors, vous voyez ici, pareil, c'est un, donc des semelles de sandales. Ça, ce sont des sandales. On voit, c'est bien, vous voyez, la forme anatomique trouvée à Reims. Alors, les motifs sont toujours les mêmes. Hein, un décor de palmes et des petits cercles. Mais qui seront associés différemment. Vous voyez, les motifs sont identiques ici, mais ils seront associés différemment. Avec toujours la volonté de créer un décor qui sera systématique, qui sera toujours différent. Alors là, je vous ai mis deux sandales. Ici, alors en fait, c'est une semelle de sandale d'adulte. Ici, c'est une semelle beaucoup plus petite, une sandale d'enfant. Tout à l'heure, alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, hein, y compris sur les sandales du IVe siècle, hein, voilà, avec des décors de Svatika. Voilà, là, c'est vraiment, ils ont laissé libre cours. Hein, ils ont vraiment rempli toute la surface de la semelle. Voilà, ici, on voit, il y a un léger liseré, hop, qui fait le contour. Voilà. Alors, pourquoi personnaliser les sandales l'explication la plus probable, la plus simple, c'est qu'on devait, dans l'Antiquité, il ne faut pas oublier qu'on devait régulièrement, on avait besoin d'enlever ses chaussures. Quand est-ce qu'on avait besoin d'enlever ses chaussures? Simplement en allant au terme. Simplement, on allait régulièrement au terme, on allait toujours au terme, il fallait enlever ses chaussures. On laissait sa chaussure dans la podithérion, on mettait les sculponae, hein, donc c'est les chaussures à semelles de bois hein, pour marcher sur les mosaïques. Et ensuite, pour être sûr de retrouver sa chaussure, donc, on avait besoin de la personnifier, de la personnaliser plutôt. Et voilà, ce serait une explication. En tout cas, c'est quelque chose qui apparaît vraiment dans les modèles de chaussures romains. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'époque grecque et qui se répand, je vous l'ai dit, dans l'ensemble de l'Empire et qui caractérise vraiment l'essentiel, enfin qui fait l'essentiel de la chaussure romaine. J'arrive au bout de mon PowerPoint. J'ai essayé de faire vraiment un aperçu le plus rapide possible, le plus concis possible, mais le plus complet aussi possible des principales caractéristiques des chaussures romaines. J'ai voulu vraiment mettre l'accent sur les différentes catégories de chaussures. Dans l'Antiquité comme de nos jours, hein, en fait, en fonction du modèle, en fonction des activités qu'on pratiquait, on portait un modèle de chaussures bien particulier, dans le carbatina pour l'extérieur. Quand on était un aristocrate, on portait la toge, on portait un calceus. Quand on était chez soi ou quand on était dans un environnement plus détendu, on pouvait porter une sandale. Voilà. Et à chaque fois, en personnifiant systématiquement, et surtout, ce qui apparaît régulièrement à partir de la fin de l'Antiquité, à partir du Bas-Empire, c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vraiment l'émergence de différences culturelles et d'une affirmation d'une différence culturelle, avec toutes ces chaussures donc à semelles et évasées et palmées, qui apparaissent à partir de la fin du IIIe siècle et qui seront presque majoritaires au 5e siècle dans les mobiliers archéologiques. Encore une fois, c'est du mobilier archéologique, je vais le préciser, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du cuir. Donc c'est des mobiliers qui sont peu nombreux, qui sont rares. La calcéologie, la coriologie, c'est vraiment une science qui est toute neuve, qui émerge et qui va. Et je pense qu'il y aura à l'avenir des découvertes qui vont se faire et qui vont permettre vraiment de mieux documenter tout cet aspect-là de l'artisanat du romain. Voilà, je vous remercie.
Archéo, le cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité au Musée Fabre, le jeudi à 20h30 sur Divergence FM.
Les archéologues, eh bien les archéologues, ils sont un petit peu laboureurs, un petit peu chineurs, un petit peu collectionneurs, un petit peu historiens, un petit peu sociologues, un petit peu poètes. Et avec toutes ces activités, ils ont fait une discipline scientifique, l'archéologie. L'archéologie grâce à laquelle nous pouvons partir à la recherche des civilisations enfuies et enfouies.
De la tête aux pieds, la parure dans l'Antiquité sera le thème de cette nouvelle saison.